Émission en jazz sur Boulevard 101, il est précisément 13h12. Vous le savez, vous pouvez nous écouter via notre application BLVD 102.1, blvd.fm, vous avez la web radio. Et vous pouvez venir nous voir également sur twitch.tv/BLVD/FM. On vous offre à Boulevard 101 des excellents podcasts et il y a une nouvelle série qui commence, c'est-à-dire Histoire d'entrepreneur. C'est la deuxième saison avec Joanie Fortin, notre collègue de Weekend Radio. Donc, c'est diffusé sur BLVD 101 et disponible sur YouTube et les plateformes de streaming le lendemain. Ce podcast s'adresse à tous ceux qui se demandent pourquoi devenir entrepreneur. Puis moi, Pascal, les entrepreneurs m'ont toujours impressionné par leur esprit d'initiative, leur débrouillardise, leur idée originale. J'ai pas cette fibre-là, moi.
Leur courage.
Leur
aussi.
Courage de tout miser. Oui, mais c'est tout sur leur idée.
Il y a moi, tout un ou deux ou trois sur quatre, mettons, qui vont dire « Ah, moi, j'avais rien, j'avais pas une scène, puis je me suis mis dans le trou pareil pour essayer de penser que mon idée pourrait se réaliser. »
Exactement. On y va. Premier épisode, 19h ce soir sur les ondes de Boulevard 102.1. Joanie va s'entretenir avec Jean Martin, membre du groupe Martin qui possède les restaurants Saint-Hubert, ainsi que Jonathan Martin, membre de La Relève qui a repris les rênes. L'histoire du groupe Martin est un véritable succès de reprenariat sur plusieurs générations à une époque où la relève entrepreneuriale est difficile à trouver. Et ce podcast est présenté par l'équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si ce n'est pas le cas, rencontrez-en un qui va le faire. Équipe MarcAntoineReed.com. On saute immédiatement à nouveau dans le dossier de l'Iran. Cette fois, on va aller parler de politique interne américaine avec notre chroniqueur en politique américaine, Luc Laliberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais toujours, si on fait abstraction de la scène internationale et des nouvelles qu'on couvre, égoïstement, je vais très bien.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même assez perturbant ce qui se passe. Luc, j'ai été surpris hier de voir que quand on met trois sondages ensemble aux États-Unis, ouais. 43% des Américains sont contre l'intervention en Iran, 29% ne se positionnent pas et 27% sont dans le camp du oui. J'ai été surpris de voir que cette intervention-là contre des extrémistes religieux musulmans n'a pas plus la cote aux États-Unis.
Ben, écoute, il faut se souvenir, ne serait-ce que de ça, en partant, les Américains ont donné pour l'Afghanistan il n'y a pas si longtemps, les Américains ont donné pour l'Irak, ça fait pas tant d'années que ça non plus.
En effet.
Et il y a toujours, ça plane sur à peu près toutes les interventions, ce que les Américains avaient fait au Vietnam pendant des années. Et c'est toujours ce fantôme-là qui revient hanter toutes les opérations américaines. Donc, puis en Afghanistan, il faut se rappeler, non seulement on était là longtemps, il y a eu des pertes de vie humaine, on a fini par ramener le régime qu'on avait chassé plus ou moins, là, leur redonner le pouvoir, et une sortie de piste qui avait été dramatique. Ça s'était préparé sous Obama, sous Trump, et finalement, tout ça était devenu opérationnel sous le président Biden, mais ça avait été horrible comme sortie, puis on nous ramenait encore les images il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a les différentes interventions, l'idée qu'on envoie les Américains potentiellement, maintenant on sait que c'est vrai, mais potentiellement mourir aussi pour intervenir dans un autre pays. Et combien d'Américains avaient voté pour Donald Trump en se ramenant toujours à un des arguments du président, que lui ramènerait les États-Unis, entre guillemets, à la maison, ou ramènerait les boys, les soldats américains à la maison. Alors que là, ce qu'on voit, bon, on l'a vu au Venezuela, on pense que ça pourrait survenir pour Cuba. L'Iran, ben, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus lourd comme intervention, puis ça risque de durer également un peu plus longtemps. Donc, moi, j'étais moins étonné par ça, même si je pense, et on pourrait faire un sondage avec les auditeurs, je pense qu'on arriverait là aussi, c'est j'ai aucune peine, personnellement. Je pense pas que les Américains soient chagrinés de voir disparaître quelqu'un comme Khamenei, par exemple, ou que le président dise, ben, finalement, on va le faire tomber, ce régime-là, qui, de manière très brutale, excessivement brutale, maintenait sa population et maintient encore, semble-t-il, sa population sous contrôle. Maintenant, est-ce que c'était aux Américains de faire ça? Est-ce qu'on est prêt à investir là-dedans au moment où la grande priorité demeure? Ce qu'on appelle maintenant, c'est devenu le terme presque consacré, l'abordabilité. C'est Quand on met les factures sur la table ou sur le chiffrier Excel ou qu'on veut payer nos comptes à la fin du mois, mm-hmm. est-ce que ça pressait tant que ça, finalement, le dernier rang, ou si on n'est pas mieux de nous donner plus de garanties ou d'investir plus d'efforts pour que ça nous coûte moins cher, pour qu'on ait l'impression de boucler le budget à la fin du mois.
Celui qui a mené d'une main de fer, disons-le comme ça, l'Iran pendant plus de 37 ans, a été abattu. On nous dit qu'il y avait, contrairement à François Legault, il avait pensé à sa relève, elle était même organisée et qu'elle existe et elle est vivante du côté de l'Iran. Mais pour cette transition-là, au pouvoir, on peut s'attendre à quoi? Puis est-ce que la stratégie de Donald Trump de dire « je vais vous proposer quelqu'un pour la tête de l'Iran et vous devez nous écouter si vous voulez que militairement on n'intervienne pas » pourrait fonctionner?
Ouais, écoute, ça va être... et je n'ai pas de boule de cristal là-dedans. Première chose, première nuance, Donald Trump a dit, nous, on voulait retirer finalement tout ce qui était la tête, tout ce qui était les dirigeants de ce régime-là. Puis finalement, il l'a dit, pour un président américain, c'est candide comme réponse considérant la gravité de l'intervention. Il a dit, finalement, on a eu tellement de succès qu'on a fait tomber ou rouler beaucoup plus de têtes que ce qu'on pensait. Sous-entendu, ben, la relève, elle est moins évidente à mettre en place. Et quand on parle de succession ou de changement de régime, il y a, il me semble, à la lumière des quelques jours qu'on a maintenant de frappe sur l'IA, il y a une grande différence entre ce qu'on a fait au Venezuela, où essentiellement on a retiré Maduro, mais on a laissé le groupe que Maduro avait en place. Donc, on n'a pas vu de changement de régime en profondeur, puis il semble qu'on s'aligne avec les États-Unis, même si à l'occasion, il y a des notes discordantes. En Iran, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Et il y a quelque chose qui me semblait un peu dur ou même cruel à très, très court terme, c'est que le message qu'envoie le président Trump, c'est « ben là, on vous a aidé, on vous avait dit il y a plusieurs semaines, help is on its way or on the way, là, on vous envoie de l'aide ». Mais il confie le mandat finalement aux Iraniens eux-mêmes d'achever le travail et de se donner un nouveau régime. On sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais combien de milliers d'Iraniens sont déjà morts hein, en osant manifester, en osant sortir dans la rue? Un des paris que prend Donald Trump, à moins qu'on ait d'autres étapes qui n'ont pas été annoncées encore, mais le pari autant à l'international qu'en Iran, qu'à l'intérieur même des frontières du pays, c'est une certaine forme de chaos. Et comment on va gérer ça à partir de là, alors que le président nous a annoncé d'ailleurs, on n'est pas fermé à ce qu'il y ait des boots on the ground, à ce qu'on envoie des soldats sur le terrain, mais essentiellement, ce sont des frappes dont on parle. Et tout le monde, je pense, c'est un consensus quand on constate les différents commentateurs ou analystes, on ne peut pas avoir un changement de régime à partir de bombardements. Ce n'est pas des drones ou ce n'est pas des missiles qui vont provoquer un changement de régime, ça prend plus que ça. Et je suis
c'est
pas
de prendre le terrain en tant que tel sur le sol, là, dans le fond, c'est ça que ça prend si on veut avoir vraiment un changement de régime?
Ben c'est ça, il faut qu'on ait une présence. Soit on a déjà un canal à l'intérieur du pays et on sait vers qui on va se tourner, on sait de qui on va faciliter la progression ou le travail. Ça se passe quand c'est une faction armée, par exemple, qui contribue au renversement. S'il y a des forces armées à l'intérieur du régime, ben eux déjà sont sur le terrain et les Américains l'ont déjà fait d'ailleurs et pas que sous Trump, ça s'est fait bien avant ça. Mais on peut ensuite arriver avec un appui aérien, une couverture aérienne. Mais pour l'instant, on voit pas de lien direct entre Khamenei et plusieurs autres ne sont pas là et ce qu'on va avoir et ce qu'on va mettre en place. Donc c'est une facette, moi, c'est une des choses que je surveille, c'est presque d'heure en heure depuis que les Américains ont tiré, ou les Italiens d'ailleurs, ont tiré la première fois, c'est est-ce qu'on en sait plus sur la finalité ou l'objectif? Et même à l'intérieur de l'administration américaine, si on écoute le président Trump, et j'écoutais un peu plus tôt aujourd'hui Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la défense, qu'on appelle le secrétaire à la guerre sous Donald Trump, mais même lui ne disait pas tout à fait la même chose que le président. Il laissait une porte ouverte, il ne voulait pas contredire le président, mais on n'entendait pas tout à fait la même chose.
Pour rappel, on parle avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine sur les ondes de Boulevard 101. Vous pouvez également le voir sur plein d'autres canaux, notamment sur le réseau LCN. Luc, est-ce que Donald Trump, puis là on s'entend, on l'a dit tout à l'heure, personne ne va pleurer la mort de Khamenei, ce dictateur qui a tué des centaines de milliers de ses confrères, donc c'est-à-dire de ses citoyens. Par contre, est-ce que Donald Trump va à l'encontre de ce qu'il avait prôné avec son intervention au Venezuela, c'est-à-dire le fameux Don Rowe. On va m'occuper de l'Amérique, occupez-vous du reste. Mais là, deux mois plus tard, il s'occupe du reste aussi.
Voilà. Et non, pour répondre à ta question, c'était une très bonne question. Pour répondre à ta question, il ne va pas à l'encontre de la politique parce qu'on avait dit, on se laisse quand même sur la scène internationale des endroits, des cibles privilégiées pour assurer la sécurité des États-Unis. Ce qu'on a dit, par contre, qui est distinct de d'autres interventions qu'on a eues, par exemple, on est revenu beaucoup, autant le président Trump que le secrétaire à la Défense sur l'Irak, il a dit ce qu'on appelle en anglais le « nation building », c'est rester sur le terrain, ce qu'on a fait en Afghanistan, ou tenter de faire en Afghanistan, c'est-à-dire rester en place pour appuyer un régime politique, mais sur le terrain, ça, on ne veut plus faire ça. Mais si on regarde, parce qu'en droit international, puis même aux États-Unis, on débat ces jours-ci. Moi, je pense que c'était le temps que Khamenei, et c'était même le temps depuis un certain temps que Khamenei ne soit plus là, mais ça va quand même débattre en droit international de qu'est-ce qui justifie une intervention comme celle-là et est-ce que ça pourrait se reproduire ailleurs? Parce que là, ça tombe sur, entre guillemets, si on caricature, ça tombe sur un méchant, on s'entend. Est-ce qu'on peut répéter ça ailleurs, puis à quelles conditions? Donc, ça pose des problèmes éthiques, moraux, juridiques, mais même aux États-Unis. Une des réponses qu'on va avoir ces jours-ci aux États-Unis, c'est est-ce que le président, en faisant ça, n'a pas outrepassé ses droits? C'est pas le premier à y aller de frappe, puis c'est pas le premier à le faire cavalièrement, à dire au Congrès, bien, écoutez, on a frappé. M. Trump ou le président américain n'ont pas pris la peine d'avertir même tous les législateurs. Il y a ce qu'on appelle la gang des huit aux États-Unis. Il y a un certain nombre de représentants, de sénateurs plus précieux ont été informés de ce qui s'en venait. Mais en même temps, on l'a vu pour les tarifs, on l'a vu pour d'autres questions. Si ça se prolonge et le président dit que ça pourrait aller jusqu'à 4 semaines, est-ce qu'à un moment donné aussi le président n'a pas à rendre des comptes au Congrès? Et ça va placer, encore une fois, plusieurs législateurs dans une drôle de position. Mais donc, Donald Trump n'a pas trahi ses objectifs. Si on regarde la politique de sécurité nationale, il faudra voir maintenant les prochains pas, les prochaines décisions, les prochaines attaques, peut-être des alliances aussi éventuelles. Puis, ben, il va avoir à gérer un certain nombre de mauvaises nouvelles aussi. Il y a 3 chasseurs qui ont été abattus par erreur, par des tirs ennemis là, dans les dernières heures. Il y a des pertes de vie de soldats américains. Dans des frappes aériennes, on s'attend moins à ça. Donc, il va avoir à gérer cette question-là aussi face à une population américaine, tu le précisais très bien tout à l'heure, qui, au moins dans les 3 sondages, ceux dont on dispose jusqu'à maintenant, on dit « on n'en veut pas de ça, nous ». En tout cas, majoritairement, on n'en veut pas.
Peut-être en terminant, parce qu'il nous reste environ 2 minutes avec toi, Luc,
oui.
J'ai amené une petite information ce matin à mon collègue Maxime Larouche, parce qu'elle me fait bien sourire depuis plusieurs années. Ce serait peut-être drôle de terminer là-dessus. Drôle, mais en même temps, intéressant au niveau de la stratégie. Depuis 1983, 89 même, on avait des alertes de franchise Domino's, Mark Mex, dans le temps, qui avait constaté qu'il y avait une augmentation de livraison de pizza puis de commandes de pizza près du Pentagone, avant peut-être des services militaires importants ou des actions militaires importantes. On en voyait entre autres en 89, on en a vu en 90, en 98, en 2024, en 2025 et encore en 2026. Cette fois-ci, c'était à l'aube de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis. On avait fait une bonne quantité de commandes de pizza et encore une fois, dans les derniers jours, on a livré à toute heure de la nuit de la pizza au Pentagone ou dans ses environs. Dans les pizzerias qui sont autour, il y a des gens qui commencent à dire « Hey, mais ça donne souvent un indice sur ce qui peut se passer. » Je te vois en train de rire.
Non, écoute, c'est la première fois que j'entends cette information-là.
Ça s'appelle l'indice pizza, puis il y a même une application maintenant là-dessus.
Oui, mais je trouve en même temps, là où je ris, c'est que parfois on dit « ben c'est couvert d'un halo de mystère, oui. On garde le secret comme cette opération-là. » On est resté très, très, très discret. On a protégé l'information. Mon réflexe ou mon sourire, c'était comment se fait-il qu'ils n'ont pas pensé à ça aussi? Si on est capable, à partir des pizzerias avoisinantes, de planifier la stratégie du Pentagone ou de la deviner. Donc, écoute, je vais me mettre à surveiller moi aussi l'indice pizza maintenant à l'avenir. Ça fera partie de mes sites, mes onglets préférés dans mes recherches.
Ça m'aura fait plaisir.
Une chose certaine, si la guerre en Iran va amener une hausse du prix de pétrole, les pizzerias, eux autres, fêtent et jubilent parce que ça leur amène une hausse de leur chiffre d'affaires. Luc, la liberté est toujours un bonheur de te parler. On se garde au courant parce que ce sera une semaine, évidemment, très faste en politique américaine et internationale.
Bon après-midi à vous deux. Bon après-midi aux auditeurs, auditrices. Bye.
Salut, Luc. Bon après-midi. Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine.
Tu ris, là, mais 27 janvier, les commandes de pizza ont grimpé de 167% chez Papa John's à quelques kilomètres du Pentagone. Puis le 28, très tôt, dans la matinée aux États-Unis, Trump publiait un message puis disait qu'il allait avoir une armada américaine qui faisait route vers l'Iran. Puis encore la semaine passée, fin de la semaine, début de la fin de semaine, t'avais une augmentation en pleine nuit de commandes. Il y a quelque chose de comique, mais en même temps d'intéressant, parce que tu dis effectivement, c'est pas trop subtil.
Ben avec Donald Trump qui veut faire plusieurs interventions, c'est fait, je m'en vais m'ouvrir une pizza.
C'est payant.
À Washington, près du Pentagone. On va revenir sur le plancher des vaches, comme on dirait, Pascal, parce qu'on va parler du vieux Québec au retour de la pause avec Mathias Turcotte. Polémique lancée par le comité de citoyens. Les commerces laissent leurs portes ouvertes en hiver. Puis là, ben, pendant qu'on me demande de partir mon lave-vaisselle à 1h du matin, ben, les commerces laissent leurs portes ouvertes. Fait que je suis insatisfait, puis je le crie haut et fort à l'hôtel de ville. On a-tu raison de crier haut et fort pour ça? On a notre petite idée, mais Mathias Turcotte va venir nous présenter le dossier au complet dans un instant à Boulevard 102 à l'émission N'en jase.